Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons dorénavant tous les jeudis, toujours bien sûr, mais de 10h à 10h30, je vais arrêter de le dire parce que bon, maintenant je pense que vous avez pris l'habitude depuis le 8 septembre dernier. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Lorichèze. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Qui nous présente son tout récent roman intitulé « L'hiver en Arcadie », publié aux éditions Le Temps qu'il fait. On en parle avec lui dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, j'ai trois petites infos à vous communiquer. Alors cet après-midi, à la librairie Gibert, qui se situe 3 rue du Thor à Toulouse, vous avez une rencontre avec Éric Lhomme, qui est un auteur jeunesse et qui a aussi écrit à quatre mains avec Pierre Bottero, une série de livres qui s'appelle « A comme association », dont il vous présentera cet après-midi justement le 5e tome, donc 15h à la librairie Gibert. Et puis ce soir, il s'en passe des choses en ce jeudi 29 septembre. Ce soir à 19h, à la librairie La Femme Renard, à Montauban, La Femme Renard qui a succédé au Scribe, comme nous l'avait expliqué Jacques Griffaud lors de son passage à Radio Occitanie le 8 septembre dernier. Eh bien, c'est une rencontre débat que cette librairie vous propose avec Claude Bléton, qui est traducteur pour Le Reste et Silence de Carla Gelfenbein, publié chez Actes Sud, j'espère que j'ai pas trop mal dit son nom à cette dame, et qui a reçu le prix des Amis du Scribe et celui du lycée Michelet. Alors Claude Bléton a enseigné l'espagnol en collège et en lycée, il a aussi traduit plus de 150 titres d'auteurs et il est lui-même auteur. Donc c'est ce soir à 19h à Montauban, à la librairie La Femme Renard. Et puis, dernière petite info, samedi 1er octobre, à partir de 15h, à la librairie La Litote, qui est 1 rue du Général de Gaulle à Haute-Rive, une rencontre avec notre ami Didier Debord, non pas en tant qu'éditeur du Griffon Bleu, mais en tant qu'auteur de son récent ouvrage dont je vous avais déjà parlé, « Les Espagnols en France, une vie au-delà des Pyrénées », publié aux éditions de La Tribu et coécrit avec Bruno Vargas, historien et professeur d'histoire en faculté. Alors Didier Debord sera accompagné par Angèle Bettini, une femme pleine de vitalité et d'optimisme, à près de 85 ans et qui a fait 4 ans de camp en France pour avoir jeté des tracts sur Pétain lors de sa venue à Toulouse. Donc un riche moment d'histoire, un riche moment de mémoire à ne pas manquer. C'est samedi 1er octobre à 15h à Haute-Rive.
Page à page, Claire Ambil.
Voilà, alors maintenant je me tourne vers mon invité, donc Jean-Yves Lorichèze qui était venu nous présenter ses deux premiers romans il y a quelque temps déjà, hein, Jean-Yves. Alors on va rappeler un petit peu qui vous êtes. Donc vous êtes né à Guéret dans la Creuse. Et puis ensuite vous avez fait vos études de lettres modernes à Bordeaux. Mmh. Voilà, donc des lettres, donc déjà l'écriture, déjà. Hein, l'amour des mots. Et puis ensuite, vous êtes allé à Niort, où vous avez enseigné d'ailleurs, et puis vécu, ainsi que Perpignan. Mmh. Donc voilà, des destinations très différentes. Et puis finalement, Toulouse. Hein, vous êtes revenu à Toulouse depuis quelques années maintenant.
5 ans, oui.
Et là, vous enseignez donc à la faculté du Mirail les lettres modernes.
Voilà.
Alors, vos racines familiales sont en Corrèze, donc voilà, qui a été évoqué dans les deux premiers romans, et quelque part peut-être aussi qui vous a inspiré pour celui-ci de roman.
Oui, les paysages, oui.
Les paysages.
Oui, oui, certainement.
De Corrèze. Et puis donc l'écriture, comme je le disais, donc vous écrivez depuis l'adolescence, hein, par intermittence, hein, mais bon, l'amour des mots a toujours été dans votre vie. Et quelque part, le choix de votre profession est aussi la continuité de cet amour des mots, j'imagine.
Bien sûr.
Hein, vous n'avez pas décidé d'être professeur de mathématiques.
Non.
Ben, c'est pour notre plus grand plaisir, hein, tant mieux.
Merci.
Alors, des poèmes, des nouvelles ou de brefs récits poétiques, hein, vous en avez écrit. Vous avez donc Placement, j'ai votre premier roman, hein, on va le rappeler. Vous avez publié aussi des essais sur des auteurs que vous aimez beaucoup, Giono, Claude Simon, Richard Millet, hein, et puis des articles aussi sur de critiques universitaires, hein, par rapport à votre profession. Alors, Placement, premier roman publié au temps qu'il fait en 2008. Ensuite, suivi de Les Pas de l'Ombre en 2009, toujours autant qu'il fait, hein, maison d'édition à Cognac, hein, que l'on peut saluer ici.
Absolument.
Et puis aujourd'hui, un nouveau roman qui s'intitule donc L'hiver en Arcadie, lui aussi. Donc vous êtes fidèle.
Je suis fidèle à mon éditeur.
Au même éditeur, donc Le Temps qu'il fait.
Il est fidèle aussi.
Et il vous est fidèle aussi. Voilà, c'est une fidélité réciproque.
Partagée.
Donc voilà, nouveau roman, L'hiver en Arcadie. Alors, les deux premiers romans, c'est votre histoire familiale qui vous avait inspiré ces deux romans, oui. Placement et Les Pas de l'Ombre, hein, dont vous étiez venu nous parler ici à Radio Occitanie. Celui-ci, c'est vraiment, L'hiver en Arcadie, c'est vraiment un roman de fiction.
Oui, absolument, oui, c'est une fiction. Et c'est une fiction que j'avais, curieusement, d'ailleurs, commencé à écrire avant Placement.
Ah oui.
Donc, l'écriture s'est faite
en plusieurs étapes. Ah oui, d'accord.
Et je l'avais ensuite repris entre Placement et Les Pas de l'Ombre, et j'ai finalement terminé après Les Pas de l'Ombre.
Donc, Les Pas de l'Ombre,
C'est une écriture qui m'a accompagné comme ça pendant plusieurs années. Et parce que justement, peut-être parce qu'elle s'inventait au fur et à mesure de l'aventure de ce personnage qui au début du roman part sur une route et je n'en savais pas plus de ce qu'il allait
lui
arriver.
Vous ne saviez pas ce qu'il allait lui arriver à cet homme.
Exactement, et c'est ce qui explique sans doute aussi qu'il ait fallu le temps de que l'histoire se construise, mûrisse et finalement aboutisse.
Voilà. En tout cas, c'est un très beau roman. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis alors, en couverture de ce livre, on va commencer par le début. Donc la couverture, c'est une photo d'un portrait d'Edouard Rode en 1909 et qui est d'ailleurs un tableau qui est au musée de Lausanne et que vous avez vraiment choisi, vous, puisque votre éditeur, il faut le signaler, vous laisse carte blanche pour choisir votre couverture. Oui. Et donc, c'est vous qui avez choisi ce tableau et je trouve qu'il il colle parfaitement au contenu du roman.
Il est venu se superposer, donc, pour moi, à l'un des personnages, donc, que j'appelle l'homme.
L'homme,
qui est en fait l'hôte, effectivement, de ce personnage qui part sur une route et qui, à un certain moment, donc, est accueilli dans une grande maison de la campagne.
Par un couple.
Voilà, et donc, ce tableau n'a pas du tout inspiré le roman, parce qu'on pourrait le croire, hein, puisqu'il y a des éléments. Il y a par exemple ce personnage, cet écrivain dont le portrait est fait, a sur les genoux un chat roux.
Oui, parce qu'il y a une chatte rousse dans l'histoire.
Il y a une chatte rousse dans l'histoire, mais elle ne vient pas du tableau, c'est le contraire.
C'est le contraire. C'est l'histoire, vous avez choisi le tableau en rapport avec...
Le tableau est venu
avec...
à la rencontre du livre, et ça, c'était très troublant.
Oui. Mais là, ce roman est troublant, hein, parce qu'il est très mystérieux, on va le voir, il est très flou, enfin, il fait appel à votre imaginaire, bien entendu, mais aussi à l'imaginaire du lecteur, parce que finalement, on peut donner plusieurs interprétations. Oui. Enfin, le lecteur est vraiment libre d'interpréter comme il veut ce roman.
J'ai voulu qu'il soit ouvert, effectivement, qu'il y ait beaucoup de suggestions et peut-être pas énormément de certitudes.
Et pas de réponses, des questions et pas de réponses. Voilà. Bah, finalement, c'est bien aussi, hein, tout à fait. Alors, ce troisième roman, en prélude, donc, à la suite donc, de cette belle couverture, vous avez noté une phrase d'un de vos écrivains préférés, hein, une phrase de Jean Giono, qui illustre là aussi très bien les paysages qui sont décrits dans le roman.
La neige,
donc beaucoup de descriptions de paysages dans ce roman. Il y a 7 chapitres, dont le dernier est assez petit, puis qu'après, on peut imaginer tout le reste. Voilà. Mais 7 chapitres. Alors, et il y a une construction originale, je trouve. On va en parler dans un instant. Moi, je vais dire d'abord les thèmes un petit peu qu'on peut trouver dans cette... Donc déjà, c'est une histoire insolite. Une écriture superbe, qu'on retrouve avec grand plaisir après Placement, j'ai Les Pas de l'Ombre. On y trouve donc de la peinture, avec notamment le tableau de Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Mmh. Voilà, mais même toutes les descriptions, on va le voir, sont, sont de la peinture, avec des mots. Enfin, je trouve que voilà, toutes vos descriptions de paysages, ce sont comme des tableaux qui se succèdent.
J'ai le goût des paysages.
Et le goût de la peinture aussi.
Et le goût de la peinture, les deux se rencontrent. Voilà. Dans l'écriture, ils se rencontrent.
De la musique aussi, hein, avec notamment le prélude de Bach, avec Liszt, avec du piano, hein, puisque la femme joue du piano et a été une pianiste connue, on va le voir. De l'écriture aussi, hein, et puis même de la littérature, avec un roman ancien, hein, finalement, Claire d'Albe, hein, un roman épistolaire. Donc on va voir l'importance qu'il va avoir dans l'histoire. La nature, hein, est omniprésente, hein, avec des, comme je l'ai dit, de très belles descriptions. Digne voilà, d'une belle galerie de peinture, hein, de la poésie, hein, aussi bien sûr dans votre écriture, on retrouve cette musicalité des mots, des phrases. Et puis l'hiver, hein, cette saison rude, hein, surtout dans la campagne, dans la montagne, avec la neige, hein, et la magie de la neige, hein, ce blanc qui... quelque part qui efface tout, la page blanche. Et oui, ça peut faire penser aussi à la page blanche de l'écrivain, la page blanche de l'ombre et de la lumière, hein, la liberté aussi avec du lâcher prise avec cet homme qui part de chez lui en jetant la clé, ferme la porte et jette la clé, voilà, et s'en va sur la route. De la passion aussi, hein, avec une passion ancienne, puis du mystère, hein, comme je le disais, c'est très mystérieux, il y a du flou et ça laisse au lecteur eh bien, la liberté d'imaginer un peu ce qu'il veut à la suite des éléments que vous avez donnés, vous, dans ce roman. Alors la construction, comme je l'ai dit, est originale. Il y a des chapitres où quelqu'un raconte le voyage de l'homme seul, et puis qui alterne avec son propre récit de son voyage et de ce qu'il vit au présent. Donc c'est un peu une histoire à tiroir, quoi.
Tout à fait, c'est une... Au départ, c'est ce personnage qui effectivement jette la clé dans l'herbe et qui part sur une route. Mmh. Et pour moi, c'était, je me souviens bien, ça remonte maintenant à quelques temps, mais je me souviens bien que quand j'ai commencé à écrire les premières pages, pour moi, c'était à la fois le départ d'un personnage et le départ de l'écriture. C'est-à-dire que c'était en même temps moi qui commençais à écrire un récit dont je ne savais pas où il me conduirait. Et donc, il y a une sorte d'identification au personnage à travers cela, à travers cette idée de quelque chose à découvrir, enfin un futur voilà, finalement vers lequel aller et qui est encore tout à fait
indistinct. Dont on ignore voilà, tout, voilà.
Et on laisse derrière soi, effectivement, comme on le fait, je crois, quand on commence à écrire un récit, on laisse derrière soi finalement beaucoup de choses. Enfin, sa vie quotidienne, on la laisse derrière soi.
Oui.
Et on entre dans un espace vierge. Hein,
intemporel, voilà, hein, où il
et,
faut...
Alors, voilà, un espace aussi intemporel, tout à fait. D'ailleurs, c'est, je crois, un peu l'atmosphère aussi de ce roman.
Tout à fait, bon, où le passé se mêle...
Qui pourrait se passer à différentes époques.
Oui, tout à fait.
Et qui aussi renvoie à un passé plus lointain.
Tout à fait, oui. Donc, le présent se mêle au passé. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Alors l'histoire, donc on le dit, donc c'est un homme seul qui sur une route, hein, dont on ne sait strictement rien. Hein, c'est écrit d'ailleurs, un désert lui aurait convenu. Hein, voilà, c'est vraiment un homme qui recherche le rien, enfin l'absolu rien, quoi. Il était parti pour partir, voilà. Donc il a fermé la porte, il a jeté la clé, et il vient de nulle part et il va nulle part. Hein, c'est vraiment comme vous l'avez dit, de la page vierge.
C'est une disponibilité totale à tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se produire.
Ça fait réfléchir. Hein, je pense que tout le monde, une fois dans sa vie, a certainement rêvé ou eu envie de faire ça. Après, on ne l'a pas forcément fait. Mais on a tous eu envie un jour, peut-être, de faire ça, de se dire, on ferme la porte, on jette la clé, puis on va droit devant et on verra bien ce qui arrive.
C'est ce que permet, je crois, l'écriture et la littérature aussi, la lecture aussi permet
cette
cela.
Cette évasion, ce lâcher prise, cette liberté finalement. Alors, il est écrit aussi, l'essentiel, je cite quelques phrases hein, pour illustrer, l'essentiel était cet élan qui l'avait fait partir sans retour possible. Hein, donc, on se dit bien que voilà, il est parti, c'est vraiment, il n'y a pas de retour. Hein. Et puis donc, il arrive dans une province, on nous décrit, hein, l'homme qui marche sur la route dans une province plutôt pluvieuse, hein, et c'est l'hiver, hein, donc c'est pas... Il y a beaucoup de descriptions donc, poétiques de la nature hein, environnante. Hein, on imagine, on s'y croirait. Hein, je veux dire, c'est tellement bien retranscrit.
Oui, mais j'accorde beaucoup d'importance aux atmosphères. À l'atmosphère des lieux.
On s'y sent vraiment.
C'est ce que j'ai plaisir à décrire. Donc.
Et ben le lecteur s'y retrouve bien aussi. Et donc, on a vraiment l'impression d'y être et puis de regarder, comme je disais, un tableau peint, de peinture, mais avec des mots. Alors, il ignorait ce que serait l'heure prochaine, et cette ignorance était son habit de voyage. Ça, j'aime beaucoup l'idée de l'habit de voyage, de ne pas savoir.
Oui, qui est un dépouillement, en fait.
Oui,
paradoxalement.
Oui, mais volontaire. Enfin, volontaire, je veux dire, qui est même recherché absolument.
Liberté, en fait.
De liberté, voilà, la liberté. Alors, cet homme seul va faire une halte, finalement, chez un couple qui l'ont pris en stop, sur la route. Et dans leur grande maison, une grande maison, il ne pouvait rêver mieux pour se perdre. Voilà, quand il arrive dans ce lieu, c'est ce qu'il se dit. Une grande maison de famille, on l'apprendra par la suite. Et puis son jardin abandonné, sa cheminée. Il est noté « le feu déploya ses ailes ». On imagine ce bon vieux feu de cheminée là, dans une pièce de maison de campagne.
Oui, je crois que c'est dans notre imaginaire.
Dans
notre mémoire, souvent aussi.
Oui, aussi. Puis la chatrousse, forcément, qui va avec, qui vient ronronner, là, en regardant les flammes. Alors, l'homme seul visite le jardin, parce que le jardin l'attire beaucoup, à demi abandonné. Et puis, il y a ce mur. Alors, il découvre un mur avec une porte qui avait dû être rouge et qui lui inspire l'espoir d'un enchantement, comme dans les contes de fées.
Oui. Alors ça, c'est effectivement, depuis le début, j'ai senti que cette histoire, il pouvait y avoir une dimension vraiment de l'imaginaire,
oui, tout à fait.
Voire du fantastique, que j'ai effleuré sans aller dans le fantastique, mais en même temps, je crois que c'est un récit qui n'est absolument pas réaliste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage donc, rencontre ces gens et s'installe dans cette maison, il passe quand même dans une dimension, du temps qui est différente, même si par ailleurs il ne se passe rien d'extraordinaire.
Oui, puis qu'apparemment les gens ont l'air de vivre normalement.
Ce sont des ambiances tout à fait, comme vous l'avez décrit, tout à fait simples. Finalement, mais en même temps, j'ai toujours senti qu'il y avait aussi cette possibilité, effectivement, du merveilleux et donc c'est ce que j'ai suggéré par cette idée qu'il s'attendait presque à trouver que la porte débouche sur quelque chose d'extraordinaire comme dans les contes. Et en fait, elle s'ouvre sur un paysage finalement, mais c'est ça qui est extraordinaire.
Mais en plus, ce paysage a cet effet sur lui d'un véritable enchantement. Donc
fait,
en plus, donc le vœu réalisé.
Il est réalisé, mais pas de la manière qu'on pourrait attendre.
Oui, tout à fait. Il découvre donc un hameau couché sur le flanc d'une colline. Voilà, c'est un très joli paysage qui, là aussi, est digne d'un enchantement pour lui et pour nous, d'un tableau encore, de peinture. Oui. Parce que moi, je trouve que la peinture vraiment est omniprésente, la musique aussi, on va le voir. Alors, l'homme se plaît bien dans cette maison, finalement inconnue, avec des gens, avec ce couple inconnu. Personne ne lui pose de questions, lui n'en pose pas non plus. Donc, finalement, c'est un peu, chacun se respecte. Il n'y a pas forcément beaucoup de paroles échangées.
Il n'y a pas très peu de dialogue.
Il y a très peu de dialogue. On ne sait rien de ces gens, pratiquement. Eux ne savent rien de lui. Et il lui semblait que ces gens, cette demeure, ouvraient sur l'inconnu plus que la route elle-même. Oui. Finalement, il a l'impression que
Alors ça, c'est très curieux parce que j'étais persuadé quand j'ai commencé le livre que, effectivement, ça allait être un roman de la route, comme il y en a tant. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours très stimulant.
On marche, on avance. Et en fait, non.
Et en fait, je me suis rendu compte après que ce personnage s'arrêtait très vite. Mais en même temps, l'endroit où il s'arrêtait, cette maison, ouvrait effectivement sur un espace encore plus étonnant et encore plus suggestif.
De l'imaginaire.
Que ne le serait le voyage.
La route, le voyage.
C'est le voyage immobile,
pour
reprendre l'expression de Giono,
que j'aime bien.
Il devient un voyageur immobile très vite. Mais peut-être parce que moi-même, je suis au bout du compte peut-être davantage un voyageur immobile. Mon personnage finalement s'est arrêté très vite, mais en même temps sur place il va trouver une profondeur
tout à fait.
Il repart quand même à la fin.
Oui, alors mais avant il accepte la proposition de l'homme donc de l'aider de rester pour aménager un débarras en salle de musique pour sa femme, parce que sa femme est une ancienne pianiste connue qui a arrêté son métier de pianiste mais qui continue à jouer du piano et donc qui aimerait avoir une pièce rien qu'à elle et son piano. Et donc, il va accepter donc, cette, cette offre de rester pour aménager ce débarras. Et ce dont elle rêvait, en somme, c'était d'une sorte de cellule. Elle veut quelque chose de très dépouillé, hein,
oui.
Cette femme.
Oui, alors c'est un personnage...
très mystérieux.
Féminin, cette musicienne qui reste pour moi-même mystérieux. Hein, c'est peut-être le personnage qui est, dans le fond, toujours vu de l'extérieur, hein, alors que les deux autres personnages, bon, le voyageur, hein, le personnage du voyageur, on voit quand même beaucoup les choses à travers ses yeux. Le personnage de l'hôte, finalement... il y a cette espèce d'alternance entre des moments où il y a un recul sur l'histoire qui est en train de se raconter. Et là, effectivement, c'est peut-être dans son esprit à lui que finalement, il y a une sorte de méditation, de réflexion sur ce qui arrive. Hein. Le personnage de l'hôte est un personnage qui, en même temps, a une espèce de vue, de recul sur l'histoire en train de se faire. Et ce que vous disiez au début, le côté un peu tiroir, finalement.
Oui, l'histoire.
Il y a des pages qui sont un petit peu des sortes de commentaires méditatifs sur ce qui se passe. Et on peut se demander si ça n'est pas dans l'esprit de l'hôte, hein, qui est en même temps un écrivain.
Mais, la femme était donc musicienne.
Finalement, c'est le seul personnage finalement, dans l'esprit duquel on n'entre jamais. Mais en revanche, je crois
qu'elle a son parfum qui est important,
d'elle,
voilà. Qui trouble le voyageur.
Il vient d'elle beaucoup de choses. Il vient d'elle une présence effectivement physique. Il vient d'elle la musique essentiellement. Hein. Et puis aussi, mais en même temps, elle a cette sorte de regard un peu absent. C'est un personnage qui me reste tout à fait mystérieux.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait un personnage dont on ne sait pas grand chose. Et puis, alors, quand il va faire ses travaux, donc d'aménagement donc de ce salon de musique, et bien sous une dalle disjointe, il va trouver des lettres anciennes, hein, enserrées dans un ruban pâli, et une liasse de lettres, et qu'il décide en fait de garder pour lui. Il n'a pas envie de dire à ses hôtes tiens, j'ai trouvé un paquet de lettres. Non, il les garde pour lui, il va les mettre dans sa chambre.
Avec un peu de mauvaise conscience.
Oui, quand même, parce qu'il se dit quand même, ça ne m'appartient pas. Mais bon, il a envie, il est curieux, il a envie de découvrir ces lettres. Alors la première qu'il lit, seul dans sa chambre le soir, est une lettre donc, qui parle d'amour, écrite par une femme. Mmh. Et en fait, il pense et il dit d'ailleurs, une femme ici dans cette maison avait été follement aimée, avait lutté contre cet amour. Parce qu'on sent que il y a de l'amour, mais bon, qu'elle se refuse à ce trop d'amour.
Là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en fait, ce roman cette histoire était complètement dans le présent. Et c'est comme ça que je la voyais, puisque ce personnage voulait rompre avec son passé. Et en fait, à un moment, j'ai ressenti ce besoin d'une ouverture sur le passé. Et cette ouverture sur le passé, elle s'est faite par les lettres, par la cage.
Par les
c'est-à-dire
lettres.
Trouver une cage dans laquelle il y a des lettres, et tout d'un coup,
ah oui,
il y a une ouverture,
fait,
une perspective qui s'ouvre sur un passé lointain. Et je me dis que finalement, cette dimension du passé, qui était très présente dans mes deux premiers livres, que je n'avais pas prévu du tout de mettre dans celui-là, finalement, elle a surgi, elle s'est imposée par le biais de ces lettres anciennes.
Oui. Voilà. Alors, l'homme seul donc, découvre que son hôte écrit un roman. C'est aussi à ce moment-là qu'il le découvre un soir, en train d'écrire et tout. Alors, on peut imaginer ce qu'on veut. On peut se dire, tiens, cet homme qui écrit, donc son hôte qui écrit, c'est peut-être lui qui raconte aussi une histoire dans l'histoire. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais vous me disiez hors antenne, Jean-Yves, qu'en fait, ces lettres, hein, dont il y a des extraits dans votre roman « L'hiver en Arcadie », vous ont été inspirés en fait par un roman qui existe et d'ailleurs dont on parle aussi.
Oui, un roman.
Le voyageur va le trouver un jour
à sa
portée,
un roman sentimental du début du 19e siècle.
Et épistolaire d'ailleurs.
Hein, Claire d'Albe. Parce qu'effectivement, je voulais des fragments de lettres, mais dans la très belle langue ancienne du 18e siècle, et ça, ou du début du 19e siècle. Et je me sentais absolument incapable d'inventer ça. Je trouvais que c'était beaucoup mieux de prendre des fragments de ces lettres, parce que c'est vraiment une très très belle langue. Et en même temps, j'ai voulu aussi que ce livre soit présent dans l'histoire elle-même. Et il est lu, effectivement, ce qui est troublant, parce que ce livre, Claire d'Albe, est lu par l'hôte.
Oui, c'est lui qui lui en parle.
Et en même temps, les lettres trouvées dans la cache sont des fragments de ce livre. Donc là, il y a quelque chose de paradoxal, si vous voulez, qui crée une sorte de mystère.
De mystère, oui, parce que le voyage...
Il y a un peu de vertige aussi dans le livre.
Le voyageur a bien l'impression, voilà, ce sont des mots à la fois brûlants, mais à la fois conventionnels, comme s'ils avaient été sans doute tirés
D'un livre.
D'un roman, voilà. Il a cette sensation. Alors ensuite, il y a aussi la fameuse photo, ressemblant bien étrangement à la femme donc, de son hôte, qu'il découvre par hasard dans l'atelier de l'accordeur de piano. Mm-hmm. Quand on sait que l'accordeur de piano a connu cette femme quand elle était pianiste à Paris et tout, on se dit, bon, là aussi, on peut imaginer, et lui aussi imagine, le voyageur, puisqu'il dit « deux passions que les siècles séparent, mais qui mystérieusement viennent de se rejoindre ». On peut imaginer que le passé rejoint le présent ou que le présent rejoint le passé.
Voilà, une espèce de dédoublement de la passion, en fait, entre ces passions anciennes, donc
voilà, qu'il découvre dans les lettres,
et en même temps, peut-être quelque chose dans le présent,
qui
reste
très
incertain.
Très flou.
Mais qui a peut-être eu lieu.
Et puis, à l'arrivée de la neige, donc dans cette grande maison et dans ce jardin semi-abandonné, la neige, la magie de la neige et la transformation du paysage, finalement, avec cet effacement, cette impression d'effacement des choses, tout est recouvert par cette ouate blanche. Et puis l'écriture, voilà, pour son hôte, restera le seul divertissement, parce que quand on est coupé du monde, dans une grande maison, forcément, et qu'il neige dehors, on peut pas se déplacer, rien. C'est vraiment l'isolement total.
Au bout du compte, il n'y a peut-être plus que ça, finalement, c'est-à-dire l'hôte face à la neige et face à cette page blanche sur laquelle il écrit. Peut-être qu'au bout du compte, c'est tout ce qui existe vraiment.
Alors après, il y a l'installation du piano, mais là, le temps nous rattrape. Il a fini la pièce, donc le piano est installé comme un roi. Il fut là, royal, comme si la pièce avait été construite autour de lui et pour lui seul, ce piano. La musique est un facteur important, un personnage important, finalement.
Oui.
Et puis moi, j'ai beaucoup aimé la dernière phrase également. Alors, je vais la dire parce que là, on termine l'émission de toute façon. Puis quelque part, il faut lire tout le livre. Mais moi, j'aime bien cette dernière phrase. C'est « Rien ne subsistait des drames anciens. Tout s'était effacé. » Alors, je vous recommande « L'hiver en Arcadie » de Jean-Yves Le Richesse aux éditions Le Temps qu'il fait pour comprendre cette fameuse phrase de fin qui a l'air de... en quelques mots, quelque part, ça dépeint tout ce qu'on a lu auparavant.
Et ça laisse les choses
complètement ouvertes. Ça laisse ouvert l'imagination. Après, on imagine ce qu'on veut, parce qu'effectivement, comme vous le disiez au début de l'émission, le voyageur, il s'en repart. Il s'en va une fois qu'il a fait le travail d'installer le piano dans le petit salon, comme le voulait la femme. Le lendemain, il décide de reprendre sa route. Voilà. Et après, on imagine,
on va continuer l'écriture après.
Voilà. Vous aussi, j'imagine, vous avez quelque chose sous le coude.
Oui, il y a des choses qui se font, qui sont encore dans les limbes.
Vous reviendrez nous en parler,
volontiers.
De toute façon. Et on vous voit de toute façon au salon du livre de Toulouse, en novembre.
Tout à fait.
Celui de Montgiscard en janvier, celui de Balmain en avril. Donc, de toute façon, j'annoncerai en temps et en heure.
Merci.
Donc, on se reverra de toute façon, Jean-Yves, avec grand plaisir. Merci à vous d'être venu.
Merci.
Et puis, on va se quitter avec quelque chose qui est dans le livre aussi et qui, j'espère, vous fera plaisir, le prélude de Bach.
Ah, c'est une très bonne idée. Merci.
Merci Jean-Yves. Adiciats.
Sur l'internet, la langue occitane présente dans le monde entier. www.radio-occitania.com
En Midi Toulousain, Radio Occitanie 98.3. En Comminges, Radio Occitanie 89.4. En Lauragais et Nord-Ariège, Radio Occitanie 106.1.
Radio Occitanie, l'émotion du pays.
Soy Maëlle, si as plavengus din l'émission des Livres d'Occitanie.
Adieu à tous.